L'émission qui va suivre est un retour de deux rencontres que nous avons eues avec Franck Lebovici. Rencontre à propos de la publication aux éditions Aldent de deux livres, Portraits chinois et Documents poétiques.
Un dimanche, un jour de pluie et de froid, Patrick Connelly, entièrement sobre, monta dans un tramway. Un peu plus tard, sans avoir témoigné de la moindre inconvenance, il fut frappé brusquement d'apoplexie et se mit à vomir.
À bout de souffle.
Le tramway était plein, des passagers sortirent, d'autres lui crièrent de descendre. On lui demanda s'il était saoul. Il fit non de la tête et dit « Laissez-moi descendre tout seul ». Mais, quand il se leva pour sortir, il s'écroula sur le sol, incapable de bouger. Le conducteur le souleva avec l'aide d'un voyageur, le sortit de la voiture et le déposa dans la rue. Entre le caniveau et les rails du tramway, à quelques mètres de la voie. Aussitôt après, d'un mouvement convulsif, il changea de position, et ses jambes étaient en travers les rails. Une femme, en passant, se porta à son secours. Avec l'aide d'un homme, elle le transporta sur le trottoir. Il resta là, sous une pluie fine. Tard dans la nuit, la truie ouvrit avec son groin la porte de la cabane. Le mari et la femme se disputèrent pour savoir s'il fallait la faire sortir. Sa femme le fit tomber par terre d'un coup de pelle en fer. Il se mit à chercher son pantalon et dit « Si je trouve mon couteau, je te coupe la gorge. » Et elle sortit en courant. Il ferma la porte derrière elle et la bloqua avec un morceau de bois. Quand on la découvrit, elle était couchée face contre terre, gelée. Le temps était extrêmement froid, là où elle était étendue. Il y avait presque 50 cm de neige. Elle était sortie de la cabane pieds nus, presque sans vêtements. Sur son chemin, il y avait des ronces, dans la neige, des gouttes de sang. Là où les ronces lui avaient déchiré les jambes jusqu'aux genoux, et des lambeaux de vêtements avaient été arrachés. À certains endroits, sa cheville avait heurté une bûche pointue et beaucoup de sang avait coulé.
À bout de souffle.
L'enfant avait environ 8 ans. Pour quelques sottises, son père le déshabilla, le jeta par terre et se mit à le battre avec un morceau de tuyau en caoutchouc, en criant « Crève, bon Dieu !» Il essaya de le jeter contre les briques de la cheminée, puis le lança une nouvelle fois sur le sol et le piétina. Jim entra dans la maison. Il prit une paire de courroies. Il alla ensuite dans l'écurie et l'attacha à la clôture. Il passa la boucle de l'autre courroie autour du cou du cheval et se mit à tirer. Le cheval commença à faire un bruit vraiment curieux. On trouva le cadavre le lendemain matin, à quelques mètres de la porte de l'écurie. Le cou, juste derrière la tête, meurtri.
Dans l'émission qui va suivre, nous allons nous intéresser à un type d'objet qualifié de document poétique par Frank Lebovici. Alors, Frank Lebovici est l'auteur d'un petit livre intitulé « Documents poétiques » publié aux éditions Aldent dans la collection « Questions théoriques ». Tout au long de cette émission, nous essaierons de cerner ce qu'est un document poétique, les raisons qui ont motivé la construction d'un tel concept, et enfin en quoi la notion de document poétique peut nous être secourable. Si ce livre nous a retenu notre attention, c'est que le raisonnement proposé a su d'abord s'appuyer aussi bien sur les travaux de Michel Foucault, en ce qui concerne les formations discursives et la circulation des énoncés, que ceux de Gilles Deleuze à propos de la ritournelle, la répétition et la déterritorialisation. Et puis également une réflexion en dialogue avec la sociologie des sciences de Bruno Latour. Aussi, au terme de la lecture de ce livre, nous sommes dotés d'une notion que nous croyons solide pour appréhender des objets jusque-là difficilement saisissables, leur donnant ainsi un statut avec une autonomie pleine et entière, élargissant ainsi l'espace de la pensée et augmentant la multiplicité des objets qui peuplent le monde. Nous verrons que si la notion de document poétique est bien un nouveau concept, elle permet cependant de nommer des objets qui n'ont pas pour caractéristique première d'être nouveaux, même si d'une certaine manière elle a sans doute été motivée par l'inventivité d'artistes contemporains, tantôt rangés dans le champ de l'art contemporain, tantôt dans celui de la poésie, tantôt dans la performance, et que nous, de notre côté, nous nous garderons bien de les enfermer à notre tour dans telle ou telle discipline. D'autant plus que la notion de document poétique ne peut être rattachée à un type de format générique, texte, image, peinture ou sculpture, mais qu'au contraire, chaque document poétique invente son propre format. Et qu'il se pourrait bien que les documents poétiques puissent justement s'identifier à leur capacité d'engendrer de nouveaux formats d'inscription et de lecture, comme le précise Christophe Hanna dans la préface. C'est donc la production d'objets, jusque-là sans grille de lecture théorique, leur permettant une existence autonome dans le champ de la pensée, qui a précédé la fabrique d'une telle notion. Alors de quoi s'agit-il? Rapidement, quelques exemples étudiés dans le livre. Testimonie de Charles Resnikoff, publié chez POL en 81. Les narratives structures, les dessins de Marc Lombardi, 1994, 97 et 99, hein, je crois. Trois documents produits par la rédaction, mais aussi d'autres documents qui partagent avec le document poétique des techniques de production. Les expériences mescaliniennes, d'une certaine manière, d'Henri Michaud, publié sous le titre de L'infini turbulent, ou encore L'urinoir de Marcel Duchamp. Et enfin, d'autres productions non citées dans ce livre, certaines productions, je pense, d'Anne James Chaton, publiées chez Aldent, et puis les diaporamas de vous-même, Frank Lebovici, dont Portrait chinois, publié chez Aldent. Un ouvrage qui fonctionne par un jeu de prélèvement et de redisposition d'énoncés trouvés sur Internet. Donc on vient donc de le voir, Frank Lebovici, vous êtes auteur de documents poétiques et théoricien de ce concept. Et si le document poétique invente son format, il est aussi un dispositif reléguant l'auteur, nous dit Frank Hanna, un simple producteur de signes par un jeu de prélèvement d'énoncés déjà existant. Ce que vous appelez la décontextualisation. Et une fois ces énoncés prélevés, un jeu de réinscription dans un nouveau format de réception, ce que vous appelez la recontextualisation, soit une technique du transfert, ce qui est aussi appelé l'implémentation. Le document poétique est aussi producteur de savoir par un procédé de description et de retraitement du savoir, ce que vous appelez la redescription. Enfin, mais nous n'avons pas ouvert dans cette introduction toutes les entrées menant au document poétique, la poésie, avec vous, devient ici une zone de recoupement, un nœud, un espace que les discours traversent, nous dites-vous. Alors pour terminer avec cette introduction, encore ceci, que si le livre document poétique donc, auquel nous avons affaire est bien un livre de théorie critique, son format vient en troubler le genre. Une ponctuation non académique, geste qui relèverait plutôt d'écrit poétique, et l'insert d'interludes comme trois petites digressions au cœur même de l'ouvrage, faisant de finalement l'annexe non plus un complément de lecture, mais une respiration dans l'ouvrage. Alors je disais donc Christophe Hannat, qui est directeur de la collection Questions théoriques chez Aldent, et qui a donc publié votre essai et qui a préfacé également ce livre. Nous dit ceci, un document poétique est un document créé intentionnellement, mais il n'est ni de l'ordre du document officiel ou disciplinaire, ni de l'ordre du documentaire, cependant qu'il possède certaines propriétés grâce auxquelles il va pouvoir se mettre à fonctionner pour nous comme un document. Aussi, un document poétique a les mêmes caractéristiques fonctionnelles qu'un document, mais a en propre la capacité de donner une nouvelle visibilité à des objets déjà identifiés ou saisis dans d'autres champs, des objets pour lesquels il nous manque un mode de saisie approprié.
Je voudrais simplement faire peut-être une ou deux petites précisions sur cette introduction qui était très bien. Sur la question du format du livre ou de la façon dont il est écrit, vous avez fait allusion à cette question de la ponctuation ou du séquençage des interludes. Dans les questions théoriques, la collection Questions théoriques, il y a une partie qu'on peut considérer comme une sous-collection. Dans lequel ce livre est publié. Cette sous-collection, c'est une sous-collection qui a pour nom Forbidden Beach, la plage interdite. Et c'est une zone, en fait, des questions théoriques qui porte sur la question même de ce que c'est la théorie. C'est-à-dire que c'est un espace où on va essayer de repenser ce que c'est la théorie littéraire, poétique ou esthétique. Et peut-être que le premier mouvement de démarcation qu'on a essayé de faire dans cette collection, c'est de dire que la théorie ne coïncide pas nécessairement avec un format d'écriture. En clair, ça signifie que l'article universitaire n'est pas le seul et unique format d'écriture ou genre d'écriture possible pour faire de la théorie. À partir de là, enfin faire ce pas sur le côté, ça permet d'ouvrir énormément les possibilités, parce que on peut mobiliser en fait énormément de ressources et énormément de compétences pour essayer de penser autrement ce que c'est la théorie. Ça, c'est une première chose. Ensuite, il y a une chose qui m'a amusé, c'est la façon en fait dont vous avez indexé les auteurs en fait dans le livre. Vous avez fait référence à Foucault, à Deleuze, à Latour. Et alors c'est vrai qu'ils sont présents, mais peut-être un, il y en a un que vous n'avez pas cité, qui est peut-être le premier en fait pour moi, et qui est Jack Goody, qui est un anthropologue anglais qui a travaillé sur la question de l'écriture et d'une certaine façon aussi sur la question du document. Et il a eu en fait, c'est plus qu'une intuition en fait, il a développé un travail sur l'idée que je trouve absolument fondamentale, c'est qu'un document n'est pas un support. On ne peut pas le penser comme un support. Et que l'écriture, c'est pas simplement une mise à plat de la parole, mais que les deux, que ce soit l'écriture ou que ce soit le document, ce sont des technologies. Et à partir du moment où on pense le document comme une technologie, et pas du tout comme un support qui va recevoir, disons, des sédiments, ça change tout. Il y a aussi quelque chose dans votre introduction que vous avez pointé, que je voudrais préciser un petit peu, qui est en fait une des questions à la base du document poétique. Une des questions fondamentales, c'est la question de la production des savoirs. Et plus précisément, une des questions qui m'a tarabusté un petit peu pendant quelque temps, c'était de savoir si l'art pouvait produire une forme de savoir. Si oui, à quelles conditions et à quelle forme de savoir on aurait alors affaire. Je fais attention de bien préciser, de bien dire forme de savoir et pas savoir, parce qu'il ne s'agit pas de produire des résultats selon une conception positiviste, c'est-à-dire que je pense que l'art ou la poésie ne produira jamais des résultats qui rentreront en compétition avec ce que pourrait produire un laboratoire en biologie. En revanche, ce que peut produire l'art ou la poésie, ce sont des cadrages ou des formats qui permettent de produire en fait du résultat. C'est pour ça que je désigne ça par le terme de forme de savoir. Donc, un document poétique qui fonctionne correctement, c'est-à-dire qui opère une redescription d'éléments existants, puisque ce qu'on appelle les éléments existants, c'est simplement le réel, devrait engendrer une forme de savoir qui lui est propre et qui peut éventuellement circuler.
Vous commencez le livre en vous posant la question, quand y a-t-il document poétique? Et non pas, qu'est-ce qu'un document poétique? Et dès le début, vous pointez sur la question du contexte, comme s'il semblait premier, en tout cas, c'était la porte d'entrée pour laquelle on pouvait aborder la question du document poétique. Il ne transmet rien au-delà du contexte duquel il procède, mais il augmente le savoir vis-à-vis de son contexte d'émergence. J'aimerais qu'on précise ça, ce jeu-là. De comment il a cette capacité d'augmenter le savoir vis-à-vis de son contexte d'origine, tout en cherchant une décontextualisation.
En fait, on peut reformuler les choses de façon très simplement à partir de la question de la représentation. Vous savez, il y a des situations très quotidiennes où vous écoutez la radio, vous voyez la télé, où vous regardez un peu ce qui se passe autour de vous, et vous saisissez des éléments épars qui sont un petit peu flottants comme ça, que vous ne pouvez pas connecter en fait les uns avec les autres. Il y a un problème de cohérence ou de cohésion en fait de votre réalité. Le document poétique, en fait, c'est simplement une tentative d'articuler des éléments entre eux qui sont épars, d'essayer d'en fabriquer une représentation qui n'existait pas encore, puisque cet ensemble, enfin, ces éléments n'étaient pas connectés entre eux, ils ne formaient pas un ensemble. Le document poétique, c'est quelque chose qui va essayer de les lier entre eux, les uns avec les autres, pour fabriquer une représentation, et qui tout d'un coup va donc produire. Par un effet, comme vous disiez, de désinvisibilisation, en fait, une lecture possible ou une saisie qui n'existait pas auparavant, simplement parce que ce type de cadrage ou ce type de lien n'était pas fait.
J'ai le sentiment que par rapport à Portrait chinois, que tu présentes comme un document poétique, le livre Document poétique, eh bien, c'est les grilles de lecture du livre Portrait chinois. Est-ce que c'est un peu comme ça que tu l'articules?
Alors, c'est un peu comme ça, c'est-à-dire que le livre des documents poétiques ne traite absolument pas des portraits chinois. Les textes ou les travaux qui sont envisagés sont des textes de, par exemple, Charles Reznikoff, le poète américain, les dessins de Marc Lombardi, les guts de la rédaction, le PowerPoint de Colin Powell. Les mémos ou les protocoles de rédaction des administrations françaises ou américaines vis-à-vis des hommes politiques. Mais ce qui est vrai, c'est que j'ai tenu à ce que des documents poétiques sortent simultanément au portrait chinois, non pas pour que l'un serve de grille à l'autre, mais disons pour dessiner un champ, dessiner un espace de lecture. Pour le dire vite, les portraits chinois sont une sorte de promenade à travers différents sites web de groupuscules politiques, activistes, qui ont une action politique qu'on qualifie généralement de terroriste, et qui, d'un point de vue régional, se situent au Moyen-Orient, en Indonésie, Philippines, un petit peu dans les républiques du Caucase. Et ce que je voulais absolument éviter, c'était des mésinterprétations ou des mauvaises lectures, disons, de ce travail. Du type, mais finalement, est-ce que vous êtes pour, est-ce que vous êtes contre, avec l'idée sous-jacente derrière, que lorsqu'on travaille sur du matériau politique, on fait forcément un travail politique engagé. Alors, ça, c'est quelque chose, en fait, que je subis, entre guillemets, depuis plusieurs années. C'est-à-dire qu'on remonte systématiquement du matériau à la posture de l'auteur. Si on travaille sur du matériau politique, c'est qu'on fait de l'art engagé. Si on travaille sur du matériau pornographique, c'est donc qu'on est pornographe. Y avait donc cette posture, si tu veux, de l'artiste Zorro, qui moi qui me dérange beaucoup, qui est une posture où en fait à la fois on donne des leçons, on délivre un message de vérité à un public qui n'en sait pas assez, qui est un peu idiot et qu'on va éduquer. Donc c'est une posture que je voulais absolument éviter. Et si tu veux, alors là, je parle pas de moi uniquement, mais beaucoup de gens qui travaillent un petit peu que je considère comme des proches en termes de travail, comme Olivier Quintin ou comme Christophe Anna, eh bien, une lecture qui était faite de leur travail aussi était une lecture de type post-situationniste. C'est-à-dire qu'en travaillant sur des matériaux préexistants, on considérait que leur travail consistait finalement à faire des détournements. Et le détournement, de la manière la plus caricaturale possible, disons, est défini à la fois comme un côté un peu bouffon, hein, on fait le pitre, on fait le clown avec des matériaux, en gros on met des oreilles d'âne aux gens sérieux, Et doublé en fait de la figure du bouffon, il y a le donneur de leçons, puisqu'il va révéler l'idéologie cachée derrière ces matériaux préexistants. Donc, quand on appliquait à leurs travaux cette lecture situationniste, on disait en gros, à la fois, ce sont des bouffons et des donneurs de leçons. Et ça me semblait être une ornière terrible dont il fallait se sortir. Et c'est pour ça que le livre des documents poétiques essaie de dessiner en fait un autre rapport aux politiques qui essaie de mettre le plus loin possible cette figure de l'artiste Zorro. Et donc je me suis dit, ça serait pas mal que ça sorte en même temps que les portraits chinois, donc pour dessiner un territoire. Donc c'est pas du tout qu'avec les documents poétiques on a un manuel de lecture des portraits chinois, mais disons que on évite, disons, quelques contresens. Voilà.
Alors, si tu voulais t'éloigner de la figure de l'artiste Zorro, avec les portraits chinois, tu ne voulais pas non plus donner un reportage.
Non. Ça, c'est effectivement l'autre écueil. C'est que lorsqu'on travaille avec des matériaux préexistants et qu'on décide, comme je le fais pour les portraits chinois, de ne pas modifier les matériaux, c'est-à-dire de ne pas essayer de les intérioriser pour en proposer une interprétation personnelle, mais simplement essayer d'en fabriquer une représentation ou une image. Eh bien, il faut réfléchir à ce que c'est que répéter un énoncé, puisqu'en fait, les portraits chinois sont constitués de la façon suivante. J'ai fabriqué des archives à partir des textes que je trouvais donc sur ces sites, c'est-à-dire des communiqués, des revendications d'attentats, des discours d'otages quand il y a des vidéos d'otages sur les sites, ou des discours de preneurs d'otages, mais aussi des commentaires que font des analystes politiques ou des journalistes qui essaient de décrire ces vidéos ou qui essaient de décrire ces communiqués ou ces discours qui sont sur les sites. Alors, moi, je me suis contenté, dans un premier temps, d'archiver toute cette masse de matériaux. et d'essayer, en faisant divers prélèvements et divers réagencements, d'en donner ce que j'appellerais une représentation. L'idée qu'il y a derrière tout ça, c'est que ces masses de matériaux auxquelles on a accès et qu'on subit, disons, plus généralement dans tous les domaines, c'est-à-dire les masses d'informations qui sont le produit de la modification du monde au jour le jour, hein, eh bien, on a du mal à les intégrer, à les incorporer, parce que ça va trop vite, disons, ou il y en a quantitativement trop. Et donc, l'idée, c'est de fabriquer des dispositifs qui permettent d'appréhender toute cette masse et de les rendre manipulables, appréhendables. Plusieurs, disons, il y a différentes disciplines dont c'est l'objet. Les sciences sociales ou les sciences politiques peuvent avoir cet objet. Les sciences de la nature peuvent avoir cet objet. Et je considère que l'art ou la poésie peut aussi avoir cet objet. Alors, pour pouvoir faire cela, la poésie ou les arts visuels ou la musique ont des outils qui relèvent ce que j'appellerais de technologie intellectuelle. Et les documents poétiques, c'est une technologie intellectuelle, c'est-à-dire qu'on fabrique un dispositif textuel qui permet de retraiter toute cette masse d'informations et d'en fournir une représentation. En gros, l'idée qu'il y a derrière, c'est que des dispositifs textuels peuvent produire des formes de savoir. C'est de se poser la question qu'il y a entre l'art et les processus de production de savoir. Une fois qu'on a posé cette question, cette question du rapport entre art et production de savoir, il s'agit maintenant d'essayer d'évaluer quel type de forme de savoir l'art peut produire. Parce qu'évidemment, on n'est pas là dans du contenu positiviste. C'est-à-dire qu'on ne va pas remplacer une production de données que pourrait fournir un laboratoire scientifique par un poème. On ne cherchera pas à se faire opérer par un poète plutôt que par un chirurgien en cas d'appendicite. Donc ce n'est pas du tout à ce niveau que ça se joue. Ça se joue plutôt au niveau des formats, au niveau des protocoles, ce que j'appelle des formes de savoir. Et donc j'ai pas oublié ta question. L'idée de fabriquer un système de retraitement de toute cette masse d'informations trouvées sur ce réseau en fait de l'activisme politique, c'est pas tant d'en donner un compte-rendu journalistique qui relèverait d'une sorte de reportage vaguement ethnographique mais sans méthode, mais c'est plutôt de fabriquer des modes de lecture, des formats de lecture. Ce qui permet ensuite, dans l'idéal, de pouvoir récupérer ces protocoles de préhension et de pouvoir les appliquer éventuellement plus tard à d'autres matériaux, en suivant les mêmes procédures. Donc, effectivement, d'une part, le premier écueil à éviter était celui d'un art engagé avec la figure de l'artiste Zorro, et de l'autre, c'était le journaliste qui simplement faisait un reportage avec des scoops sur ce qu'on appelle habituellement des réalités non couvertes, ou ce que Stéphane Bérard appelle des réalités non couvercles. Donc là, c'est donc essayer de fabriquer des formes de savoir qui permettent d'appréhender des zones effectivement peu balisées.
Effectivement, dans Portrait chinois, finalement, on ne découvre rien de ce qui a déjà été dit et des événements qui ont déjà eu lieu. Par contre, on opère un parcours. On réopère un parcours, c'est-à-dire qu'on rejoue dans un nouveau mouvement l'histoire de ces mouvements terroristes, et on se replonge dans une actualité passée, mais là sous forme d'un parcours. Le livre est articulé en plusieurs fragments
et. Sont des portraits en fait. Donc derrière chaque portrait, il y a soit un personnage, soit un événement, soit une action, soit un lieu. Et en fait, l'idée, c'est de dessiner une cartographie de ce monde-là.
C'est ça.
Alors, c'est une cartographie qui n'est pas seulement web, mais c'est une cartographie réelle, enfin réelle, j'entends, qui n'est pas seulement numérique. C'est-à-dire que c'est une cartographie de ces conflits, de ces situations géopolitiques en mouvement, qui modifient le droit, qui modifient l'éthique, qui modifient les formes de communication, qui inventent des façons de faire la guerre. Et l'idée, alors ça c'est une idée qui est un peu, enfin c'est un point de vue plutôt qui est ce qu'on appellerait pragmatiste, c'est-à-dire d'essayer de faire parler tous les acteurs d'une question. Donc de ne pas proposer son interprétation à soi, qui dénoncerait, disons, une situation injuste ou une situation terrible, ce qui, en sociologie, disons, serait ce qu'on considère un peu comme une caricature bourdieusienne, qui n'est pas forcément le point de vue de Bourdieu, mais disons, qui est un courant bourdieusien qui relève de la dénonciation. Et là, ça serait plutôt un point de vue pragmatiste qui essaie de faire une cartographie de tous les acteurs, de toutes les questions qui structurent ce monde-là.
Tu dis les documents poétiques augmentent le réel, mm-hmm, et s'inscrivent contre une découpe du monde en sphères économiques, politiques, juridiques, sociales, esthétiques, sans pour autant relever du collage ou du patchwork. Il n'est ni accumulation par strates de ces sphères, ni réductible à l'une d'elles. C'est un fonctionnement en composition. Et peut-être revenir sur cette différence. Alors, il y a un livre de Quintin,
ouais,
sur le collage,
ouais,
mais peut-être revenir sur ça, le collage, hein, vraiment d'essayer de la décontextualisation, c'est-à-dire le prélèvement et la recontextualisation, de bien la différencier d'une technique du collage. Alors, je ne sais pas s'il y a un objet, si on pourrait s'appuyer sur un objet particulier pour...
Ouais, alors il faut, j'essaie de résumer en trois phrases le texte d'Olivier Quintin, qui s'appelle « Dispositif dislocation », dans la même collection Forbidden Beach, la question théorique, qui est sorti, en fait, qui est l'opus qui est sorti juste avant des documents poétiques. En fait, l'objet de Quintin est légèrement différent du mien, on ne parle pas tout à fait de la même chose. Lui, il considère que le collage, c'est une technologie ou une opération critique. C'est-à-dire que c'est une opération qui consiste à mettre sur le même plan des éléments hétérogènes issus de mondes différents. Et la notion centrale, si j'ai bien tout compris, hein, c'est, chez lui, c'est la notion d'incommensurabilité. C'est-à-dire qu'on ne pourra jamais faire en sorte que ces éléments issus de mondes hétérogènes et collés ensemble puissent finalement communiquer. C'est-à-dire qu'on ne pourra jamais les mettre sur le même plan. Ce qui veut dire que par cette incommensurabilité, il y a une sorte de représentation de l'éclatement des points de vue, où les différents points de vue ne pourront jamais communiquer totalement entre eux. Et c'est donc une opération critique de mise en crise. D'accord ? Enfin, une opération critique tout court, même. Ça fabrique donc une image du monde. La question des documents poétiques, elle est un petit peu différente. Quand je dis que c'est pas un collage, je fais référence à une opération qui consiste à prélever dans un matériau existant des fragments et à les réagencer entre eux. L'idée est de fabriquer par exemple un portrait chinois. L'idée là, ce n'est pas du tout de mettre en avant cette idée d'incommensurabilité. L'idée, c'est de proposer ce que j'appelle une redescription. C'est-à-dire non seulement une description autre, qui n'est pas... qui propose une autre description que les descriptions préexistantes, mais aussi une autre reconfiguration, un réagencement des éléments pour fabriquer une autre lecture et une autre représentation. L'idée qu'il y a à la base de cela, c'est deux choses. Le premier point, c'est ce qu'on appelle un problème public. C'est-à-dire qu'il y a un problème général, une question générale, qui va faire appel à différentes disciplines, qui va mobiliser des juristes, des politologues, des artistes, des gens de la rue, des ONG, etc. Ces groupes vont fabriquer des collectifs autour de cette question et ils vont se mettre à modifier le droit, fabriquer des discours, faire des actions collectives, etc. Et cela, il s'agit pour moi d'en faire d'abord une cartographie, donc de redécrire en fait ce qui est en train d'être inventé. La deuxième chose, pourquoi ce n'est pas un collage, c'est que, en disant collage, pour moi, on ne voit pas le lien qu'il y a entre l'art et la production des formes de savoir. Quand je prélève un énoncé de son matériau source, je le constitue en ce que j'appelle un énoncé flottant. C'est-à-dire qu'il est extirpé de son écosystème d'origine, du contexte qu'il a produit. Alors il garde les colorations de son lieu de naissance, mais il en perd un certain nombre de propriétés. La façon dont je vais le réagencer avec d'autres énoncés va déterminer sa nature à venir. C'est-à-dire que c'est en fonction de l'usage qui va en être fait qu'il va gagner une nouvelle coloration. C'est-à-dire que si j'extirpe un énoncé d'un article scientifique et que je le réagence dans d'autres protocoles scientifiques, que je le republie dans une revue scientifique, eh bien cet énoncé flottant va repartir dans un nouveau contexte scientifique. Mais je pourrais très bien l'utiliser d'autres façons, c'est-à-dire que cet énoncé, je pourrais très bien l'intégrer avec quelque chose qui relèverait de mon opinion personnelle et fabriquer des théories du complot. Je pourrais très bien le sectionner visuellement et faire en sorte que sa deuxième partie reparte au début d'une ligne et le scander, et en lui donner une forme visuelle de poème. Et si je fais un 4-4-3-3 ou un 4-4-6, je peux le transformer en sonnet. Donc c'est l'usage en fait qui va déterminer sa nature. Ça me semble être une question qui n'est pas du tout celle du collage. Le collage, c'est une opération critique d'une situation. Là, on s'intéresse plus à la question de la production de formes de savoir. Avec la question des énoncés flottants, qui articulés entre eux fabriquent des mondes flottants, et ces mondes flottants, à mon avis, sont déterminants pour comprendre certaines formes de production de savoir, l'accélération des productions de théories du complot, les usages esthétisants que fait un certain type d'art vis-à-vis de ces matériaux, etc.
Ces énoncés flottants, ils sont à distinguer du fragment.
Oui, un énoncé flottant, l'exemple que je prends toujours, c'est celui que... Enfin, c'est le point de départ que je prends souvent, c'est le point de départ que Latour décrit dans son bouquin « La vie de laboratoire ». Il explique qu'un énoncé scientifique n'est scientifique que parce qu'il est attaché à son contexte de production. Son contexte de production, c'est un article scientifique, et les modalités même de rattachement à ce contexte, c'est les notes de bas de page. C'est-à-dire qu'une note de bas de page, eh bien, renvoie à d'autres sources qui permettent de comprendre ce que c'est une preuve, de pouvoir remonter à la source, d'aller vérifier ce que dit l'auteur. C'est-à-dire que lorsqu'un chercheur avance quelque chose, il doit toujours avancer des arguments qui vont avec pour montrer que ce qu'il dit est fondé. Tant que son énoncé est soumis à débat, tant qu'il est une hypothèse, il a besoin de ses notes de bas de page pour être soutenu. Mais avec le temps, il y a certains énoncés qui vont produire un consensus autour d'eux, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de gens qui vont être d'accord avec cette proposition, avec cette hypothèse. Et plus le consensus augmente, moins on aura besoin de le rattacher à des béquilles pour le soutenir. Il va arriver un moment où, en fait, il aura été tellement accepté, tellement cité, il se sera en fait tellement naturalisé, qu'on ne va plus ressentir le besoin, non seulement de le rattacher à d'autres articles scientifiques pour le prouver, mais on va même en oublier l'identité de son auteur. C'est-à-dire que ce ne sera plus, selon un tel, la chose est la suivante, ça sera directement la chose est la suivante. Donc en fait, c'est un peu comme si ça tombait dans le domaine public. C'est à ce moment-là que je reprends les choses, c'est-à-dire qu'un énoncé flottant, c'est pas du tout un fragment, c'est quelque chose, en fait, qui s'est dépersonnalisé, c'est-à-dire qui s'est détaché de son contexte d'origine. Et en fait, quand il perd ses notes de bas de page et quand il perd son producteur, son auteur, eh bien, c'est là qu'il se met à flotter et c'est là qu'il peut être réutilisé dans différents contextes. Donc, on peut dire que c'est un fragment, mais en disant un fragment, on ne dit rien, en fait, de ce processus de détachement et de rattachement dans l'avenir.
Oui, parce qu'une fois que cet énoncé est flottant, comme dans le cas des documents politiques, ou quand il y a l'extraction, il y a un phénomène, on crée un énoncé flottant, mais ensuite, comme il est réinjecté dans le document, il n'est plus un énoncé flottant, à moins que la totalité du document politique, à terme, puisse devenir peut-être un énoncé
ou flottant. Ou un monde flottant. Il y a d'ailleurs des artistes qui travaillent sur ce moment précis, c'est-à-dire une fois que l'énoncé s'est détaché et avant qu'il ne soit rattaché. C'est un moment qui peut-être n'est qu'un moment logique, parce que je ne sais pas si c'est possible de penser un énoncé en dehors de tout contexte.
C'est-à-dire de maintenir cette suspension.
Maintenir cette suspension. En tout cas, ce lieu qu'il faudra inventer pour qu'il soit en suspension, eh bien, certains artistes considèrent que c'est leur boulot de fabriquer une sorte de scène qui rend visible ce moment.
Est-ce que il n'y a pas eu cette approche dans l'écriture des portraits chinois?
C'est une direction possible. Je sais pas exactement si c'est ça, mais en tout cas, il y a l'idée m'a traversé la tête.
Ils m'ont fait sortir, m'ont aspergé d'eau, m'ont fait boire du thé et m'ont tendu une cigarette. J'ai dit au commandant, si je dois terminer comme lui, finissez-en avec moi, maintenant, parce que je n'en peux plus. MR. Les ravisseurs m'ont conduit dans une pièce puant le sang. Il y avait du sang séché par terre. Un homme, masqué, tenait une pierre affûtée et un couteau, et aiguisait le couteau avec la pierre. J. Qu'entendez-vous par couteau? MR. Un couteau d'abattage de boucher. À ce stade, je me disais, je préférerais que vous me tuiez tout de suite. Le plus. Le porteur de couteau m'a jeté un drôle de regard. Le commandant est entré. Ils appellent commandant, celui qui autorise l'exécution. Il m'a fait sortir et m'a dit. J. Était-il aussi masqué? MR. Non. Celui qui est entré ensuite n'était pas masqué. J. C'était un Irakien? MR. Oui. Il m'a fait sortir et m'a dit. Il y a quelque chose que nous voulons te montrer maintenant et qui servira de leçon à tous les Libanais et en particulier à ceux qui collaborent avec l'armée américaine. Tu vas voir quelque chose d'horrible. Mais tu pourras le supporter. Nous, on y est habitués. Mais toi, tu n'as peut-être jamais rien vu de pareil. Deux voitures sont arrivées. L'otage égyptien se trouvait dans le coffre, en sous-vêtements. Tout son corps était bleu de coups. Nous sommes entrés. Ils m'ont dit « Tiens-toi debout, derrière le caméraman, et ne dis rien. » Ils ont placé un garde à côté de moi pour que je ne m'enfuie pas par la porte. Ils m'ont obligé à regarder. Ils ont vêtu l'Égyptien d'une robe et l'ont forcé à s'agenouiller par terre. J. Avez-vous crié, pleuré, appelé au secours? MR. Non. Non. Ils l'ont fait s'agenouiller et m'ont raconté son histoire. Le commandant me l'a raconté. Il m'a dit « C'est la deuxième fois que nous l'attrapons. La première fois, il lançait des disques à guidage laser sur les habitations des Moudjahidines à Fallujah et nous l'avons attrapé et il s'est repenti. Nous lui avons pardonné, nous l'avons aidé et lui avons rendu sa liberté. Peu de temps après, nous recevions une information établissant que cet homme se trouvait à Fallujah utiliser les mêmes disques, kidnapper de jeunes irakiennes et les amener aux militaires américains pour les amuser. Il m'a demandé. Alors, je n'ai pas le droit de le tuer ? J'ai hoché la tête. J'y. Vous lui avez dit qu'il pouvait le tuer ? MR. Il était agenouillé par terre. Ils lui ont attaché les mains derrière le dos. Elles l'ont sommé de donner les informations suivantes. Identifie-toi. Dis d'où tu viens. De quelle région. Donne ton adresse exacte et raconte ce que tu faisais en Irak. L'Égyptien a parlé. Il a donné son adresse et son nom. Il a voulu prononcer la déclaration islamique de la foi, mais le boucher qui se trouvait derrière lui. Ils appellent boucher le gars qui se tient derrière et qui s'occupe des exécutions. Il lui a sorti la langue et en a coupé un bout. Il a dit « La shahada ne doit pas sortir de ta bouche parce que tu la souillerais. » Ils lui ont mis des morceaux de coton dans la bouche. Le boucher a lu une déclaration qu'il tenait dans la main. Quand il a terminé de lire, il a allongé le prisonnier par terre. Quelqu'un lui tenait les pieds. Et il l'a décapité. Il l'a abattu avec facilité, de sang-froid, comme s'il s'agissait d'un oiseau. Je ne pouvais plus supporter la vue et l'odeur de la scène. Je suis tombée par terre. Ils m'ont fait sortir, m'ont aspergé d'eau, m'ont fait boire du thé et m'ont tendu une cigarette. J'ai dit au commandant, « Si je dois terminer comme lui, finissez-en avec moi. Maintenant, parce que je n'en peux plus. »
Poétique ici s'entend dans le sens étymologique du poème, du faire, c'est-à-dire qu'il fabrique des formats. il fabrique des cadres. Il recadre en fait l'échelle pour saisir le matériau. Simplement, c'est comme dans une photo. On peut avoir un format de type, un cadrage de type portrait, un cadrage de type paysage. Et selon le cadrage qu'on va choisir, on va avoir une appréhension du réel totalement différente. Et le document poétique, c'est un document en fait qui va proposer un autre type de cadrage, un autre type de format. Alors, on voit très bien ce que ça donne quand il s'agit de l'image, mais quand il s'agit du texte, en fait, c'est la façon dont il va articuler différents éléments. Comment il va réagencer ou reconnecter de façon différente les éléments qui le composent. C'est en ça qu'il est poétique. C'est en ça, d'une certaine façon, qu'il a ce qu'on pourrait appeler une activité, qu'il est actif. C'est-à-dire que chaque fois qu'on peut réappliquer ce protocole sur d'autres matériaux et que ça produit une forme de connaissance, une forme de savoir, il est actif. Il va arriver un moment où les protocoles mis en place vont se naturaliser. C'est-à-dire que quand on voit pour la première fois un document poétique ou un nouveau document poétique, ce qui frappe, c'est son artificialité. C'est-à-dire le caractère composé, le caractère un peu finalement difficile à déchiffrer ou qui fabrique une distance.
C'est très frappant dans Ce que je fiche. La dernière édition d'Aldent.
Ou dans les Guts, au début, on ne sait pas comment les attraper, on ne sait pas par où commencer. Mais petit à petit, on va simplement se faire au format de lecture et on va y nager, on va s'y promener en chaussettes. Donc là, ils vont rentrer dans un processus de naturalisation. Ça va paraître de plus en plus naturel de les lire comme ça. Ça dépend aussi du mode de diffusion, c'est-à-dire que plus un large public y a accès, plus ça va se naturaliser rapidement. Et au bout d'un moment, ça sera tellement naturalisé que ça va produire de moins en moins d'effets. Et ça va s'institutionnaliser. Donc, vous aurez, par exemple, un format de, je sais pas moi, de mémo, ou de brief, ou de rapport, avec un protocole hyper balisé, qui est immédiatement lu, par exemple, les protocoles qu'il y a dans les administrations. C'est très codifié, et on ne voit plus quel type de forme de savoir ça produit, alors que ça continue à en produire, mais... Disons que ce n'est plus frappant. Ça ne joue plus le rôle des révélateurs. Et auquel cas, ça perd son activité, ça gagne une sorte de passivité, si on veut utiliser le terme inverse. Et si on voulait comparer l'activité, la passivité d'un document, je dirais peut-être la chose suivante, c'est que quand on ajoute dans une caisse d'archives un document, on est sur le mode de l'additivité, du plus 1. C'est-à-dire que, bon, il y avait 99 documents dans cette caisse de bois, j'en rajoute un, il y en a 100. Quand on applique un document poétique à d'autres documents, on n'est plus sur l'additivité, mais on est sur la reconfiguration. C'est-à-dire qu'on est obligé de relire tous les autres documents, de les reconfigurer, de tout reclasser, de tout réagencer, parce que je ne dirais pas que ça met le foutoir, mais disons, au contraire, ça oblige à réordonner l'intégralité du stock. Donc c'est ce qui permet de discriminer un document actif d'un document qui ne l'est plus. Mais c'est une question de temps, et c'est une question de contexte. C'est-à-dire que dans un contexte, un document peut fonctionner comme document poétique, et dans un autre, il peut être un simple document sans effet.
Question de contexte, question de temps. Christophe Hannat parle d'une poésie virus. Mm-hmm. Et qui est une poésie virus qui va s'insérer ou qui va s'attaquer là où il y a des lectures réflexes. Mm-hmm. Et notamment là où tout est extrêmement codifié, justement, mm-hmm. forme de document qu'on peut lire très rapidement. Est-ce que les documents poétiques rentrent dans cette catégorie de poésie virus qui viennent mettre en crise un certain nombre de documents ou de contextes où on a des lectures réflexes, des lectures automatiques, et que le document poétique pourrait venir mettre en crise.
Alors ça, il faudrait demander plutôt à Christophe Hannard si on a affaire ici à une poésie virus. J'aurais un petit peu de mal à répondre parce que c'est un vocabulaire qui a quelques années que Christophe Hannard avait utilisé à des fins très précises. Et je ne sais pas s'il utiliserait encore aujourd'hui ce lexique. L'idée qu'il avait dans mon souvenir, hein, parce que j'oublie vite, c'est que les poésies virus étaient des poésies qui étaient destinées à déconditionner un certain type de lecture, on va dire de désautomatiser. Donc c'était quelque chose peut-être d'un peu plus réactif. Ici, je dirais qu'il ne s'agit pas tant de désautomatiser que de reconfigurer ou de réagencer. Et puis, surtout, pour tous ces matériaux qui relèvent des réalités dans couvercle, on ne peut pas trop désautomatiser ce qui n'est pas encore automatique, puisque c'est non couvercle. Mmh.
L'idée principale qui m'a plu hein, avec les documents poétiques, c'est que voilà un livre qui nous permet de saisir des objets qui, jusqu'à présent, eh bien, il n'y avait peut-être pas une grille de lecture qui permet, si ce n'est de les totaliser, en tout cas, de ouais, les approcher.
C'est exactement ça. L'idée, c'était... ça partait d'un constat que la façon qu'on avait de travailler, quand je dis « on », c'est quelques personnes... on avait une façon de travailler qui pouvait sembler en fait un peu isolée dans le domaine des arts visuels ou de la poésie, mais que dès qu'on élargissait un petit peu l'horizon, on se rendait compte qu'il y avait énormément de gens qui travaillaient de cette façon, mais dans des disciplines différentes. C'est-à-dire que on trouvait par exemple... dans les sciences sociales, en sociologie, en droit, en architecture, en musique, en art visuel, en poésie, en sciences politiques, des démarches qui finalement étaient très proches, qui considéraient que les modes de fonctionnement qu'on avait jusqu'alors n'étaient plus possibles, qu'on ratait la moitié des choses, on n'arrivait pas à saisir la moitié des choses. Et avec des documents poétiques, ce que j'ai essayé de faire, c'est d'essayer de désinvisibiliser d'une part ce qu'on pourrait appeler cette scène, bien que ce n'est pas du tout unifié, puisque ça a éclos vraiment dans différentes disciplines de façon complètement non coordonnée, mais essayer aussi de les lier, c'est-à-dire non seulement désinvisibiliser, mais aussi... coordonner en fait tous ces travaux pour essayer de montrer la cohérence qui existe entre par exemple quelqu'un qui travaille en sociologie dans ce domaine, enfin de cette façon, et quelqu'un qui travaille en poésie de cette façon, parce que les problèmes sont les mêmes, ce sont des problèmes qui relèvent de la description. Comment est-ce qu'on peut décrire de façon nouvelle quand on manque d'outils de description? Qu'est-ce qu'on fait quand on a une réalité à décrire, mais qu'on n'a pas les outils pour le faire? Et ça, c'est un problème qui n'est pas du tout propre à la poésie, c'est un problème public, qui est un problème de production de savoir. Donc le livre a essayé, si tu veux, de dresser une sorte de scène, comme on parlerait de scène musicale, mais là, le terme est impropre, hein, parce que c'est... Encore une fois, les gens ne se connaissent pas, il n'y a pas de mouvement, donc c'est un peu ça.
Mais si la démarche n'est pas nouvelle, est-ce que le fait que le champ de la poésie mm-hmm. soit confronté à ces mêmes problématiques, est-ce que ça, c'est pas nouveau pour la poésie de voir ou de s'apercevoir qu'elle a quelque chose en commun d'un travail d'un juriste,
non, je crois
d'un
pas.
Travail d'un sociologue?
Je crois que en fait, ça a été toujours le cas. Mais que ça n'a peut-être pas été thématisé comme tel. Mais je crois que ça, enfin, c'est pas seulement pour la poésie, d'ailleurs pour la peinture, pour la, pour les arts en général. Tu sais, il y a cet exemple un peu cliché qui dit que au XVIIe siècle, quand on a inventé les gens qui ont inventé la science moderne, ce qu'ils avaient dans l'esprit quand ils parlaient de la nature, c'était les paysages de la peinture hollandaise. Donc, en gros, que c'était la peinture qui avait cadré, qui avait proposé un cadrage du paysage, qui avait inventé, entre guillemets, le paysage. Et c'est cette forme de paysage que les scientifiques avaient à l'esprit quand ils jetaient les bases de la science, de la science moderne. Donc, je crois pas du tout que ça soit nouveau. Enfin, pareil au XVIe siècle pour les poètes de la Pléiade, etc., ou au XVIIe pour... c'est cette tentative qu'il y a eu de fabriquer une langue... standard qui puisse servir d'équivalent général pour écrire la science. Une sorte de langue pure, hyper paramétrée.
Par exemple, le travail aussi de Vinci.
Ouais. Donc, je crois pas du tout que ça soit nouveau, en fait. C'est simplement que peut-être maintenant, on propose une redescription de cette histoire, enfin, vue sous cet angle. Ce que fait l'histoire des sciences à sa façon, ou la sociologie des sciences, et qu'on n'avait peut-être pas fait, ou qu'on avait un peu oublié ces derniers temps dans le domaine de l'art, mais je crois pas que ça ait quoi que ce soit de nouveau.
Alors, dans le livre, il y a les structures narratives de Marc Lombardi, il y a aussi une analyse de testimony de Resnikov. On pourrait partir de peut-être des structures narratives pour voir un peu comment elles se composent, comment Marc Lombardi met au point ce document poétique.
Oui, alors Marc Lombardi, c'est un type qui a eu différents boulots. Il a travaillé dans un musée, il peignait, il écrivait, il était un peu archiviste, il tournait un peu en rond. Et je crois que c'est vers 94, il a commencé à essayer de vouloir synthétiser tout ça. Il a eu simplement, lors d'une conversation téléphonique, il a gribouillé sur un petit brouillon ce qu'il disait, sous forme de schéma, et il a eu une sorte, dit-on, hein, de révélation pour cette technique pour synthétiser des informations éparses. Lui, son dada, c'était de découper dans les journaux tout ce qui relevait de scandales politico-militaro-financiers, etc. Donc il prenait ce qu'on appelle une affaire, un scandale, et il essayait de rassembler le maximum de documents. Il fichait tout ça, si bien qu'il avait plusieurs milliers de fiches autour de différents scandales, mais il ne savait pas trop quoi en faire. Il ne savait pas trop devant cette masse de matériaux, comment il pouvait retraiter ou redécrire ou proposer une redescription ou une représentation de tout ça. Et vers 96, il a proposé ce qu'il a désigné par le terme de structure narrative. Alors c'est un terme qui relève du littéraire ou de la linguistique, mais visuellement ça se présente sous la forme de schéma. Et c'est une technologie toute bête, une technique toute bête, c'est prendre des patronymes, c'est-à-dire tous les acteurs, et les relier par des traits. Alors des traits de différentes natures, qui indiquent des flux, des directions, des flux financiers, ou alors des liens politiques, etc., pour essayer de proposer une cartographie du scandale. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit que d'un brouillon à l'autre, d'un schéma à l'autre, sur la même affaire, les formes se modifient. C'est-à-dire qu'il essaie de trouver la meilleure configuration géométrique possible pour en dire le maximum avec une économie de moyens optimale. Donc on voit qu'au début, c'est plutôt tel schéma va être plutôt linéaire, puis petit à petit, il va prendre une forme circulaire, et la version ultime en fait, de cette affaire-là, ça sera une grande sphère, parce qu'il aura considéré que c'était la meilleure façon de représenter finalement cette histoire. Et donc, on peut partir un peu de n'importe où, de n'importe quel acteur dans le schéma, et retraverser complètement ce micro-monde. Donc, ça fonctionne aussi comme une sorte de promenade.
Et on a, est-ce qu'on a quelque chose qui serait peut-être typique, caractéristique des documents poétiques? Le fait que, par exemple, on est sur un format ou un support, un certain nombre d'informations qui sont normalement dispersées sur plusieurs formats et plusieurs supports différents.
Exactement. C'est-à-dire que c'est là, pour moi, un des exemples de ce que pourrait être une forme de savoir. C'est-à-dire que ce protocole de diagramme, de mise en diagramme, c'est une façon de synthétiser différents régimes d'informations. C'est-à-dire que si on essayait de mettre sous forme de phrase ce qu'a dessiné le diagramme, eh bien, ça serait une tâche presque infinie, parce que comme il y a des effets de boucle, des effets de feedback, et il y a différentes façons de se promener dans le diagramme, eh bien, on n'y arriverait pas. De la même façon, la configuration géométrique, ce qu'on pourrait appeler la visualisation ou la représentation visuelle que propose le dessin, c'est une information supplémentaire qui n'est pas dans le texte, qui n'existerait pas sous la forme d'une mise en récit. Donc, bon, ça c'est un truc très connu pour les gens qui travaillent sur les régimes sémiotiques, c'est qu'il n'y a pas une traductibilité totale d'un régime à l'autre. C'est-à-dire qu'on ne peut pas traduire sous forme de phrase un dessin, et on ne peut pas traduire sous forme de dessin des phrases. Donc, avec ces structures narratives, il propose quelque chose qui n'est pas traduisible, traduisible sous une autre forme, sous une autre technique.
Il y a aussi un autre travail, celui de Resnikov, qui est aussi intéressant sur les questions de prélèvement à partir d'un matériau, et de réécriture, mais pas de réécriture du texte, mais de réécriture du rythme.
Oui, c'est-à-dire que, alors lui, Resnikov, il a travaillé à partir des archives de, on va dire, de faits divers, les archives, les minutes des greffiers, des faits divers qui se passent aux États-Unis entre, je crois, 1885 et 1914, dans mon souvenir. Ça, c'est peut-être pas les dates exactes, mais c'est un peu loin maintenant. Et donc, il a récupéré tous les témoignages des gens qui sont passés à la barre pour témoigner sur différentes affaires. Ce qu'il a fait, c'est qu'en prenant une affaire, il a récupéré tous les discours des témoins, et il a opéré des prélèvements ça et là pour proposer une sorte de compte-rendu de l'histoire. En choisissant à chaque fois des thématiques différentes. C'est-à-dire que il voulait proposer une sorte d'histoire des États-Unis dans une fourchette temporelle, entre telle année et telle année. Donc, il a essayé de dresser une grande cartographie avec le nord, le sud, l'est et l'ouest, et en prenant des thématiques du type la vie sociale, la vie familiale, les mœurs, etc. La vie professionnelle. Et à chaque fois, il essaie de trouver des faits divers qui servent un petit peu d'illustration ou de paradigme à, disons, je sais pas moi, la vie professionnelle dans le nord de l'Amérique. Et donc il prend un fait divers, il prend les discours des différents témoins et il prélève dans ces discours des fragments qui permettent, selon lui, de reconstituer le récit. Ce qu'il fait, ce qu'il applique comme opération, c'est d'abord une opération de lissage des voix, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il n'y a non plus différents énonciateurs, différentes personnes, différentes voix, mais plus qu'une seule. Donc il les fusionne dans une seule voix. Et la deuxième opération à laquelle il se livre, c'est celle de re-rythmer le texte. C'est-à-dire qu'il va, en gros, à la ligne avant la fin de la phrase, pour donner, pour produire une impression visuelle de poème, et pour re-rythmer la phrase de l'intérieur. Alors, tu vois, c'est exactement un processus de dénaturalisation. D'artificialité. La forme d'un poème ou d'un sonnet, etc., ça paraît tout de suite un régime de langage qui n'est pas naturel. Et c'est justement en fabriquant cette forme-là qui va pouvoir constituer une forme de savoir et un retraitement de toute cette masse d'archives énorme qui va finalement condenser dans Testimony.
Et par exemple, on pourrait imaginer, et là c'est une question sur le pragmatisme et l'efficacité des documents, on pourrait imaginer que par exemple Testimony soit un matériau qui puisse à la fois être utilisé dans le champ de la poésie, pour des réflexions autour des questions que soulève un tel travail, mais aussi par des historiens.
Oui, c'est-à-dire que, en fait, tu sais, il y a ce livre de Paul Vane qui s'appelle « Comment on écrit l'histoire ?» Quelqu'un qui fait le métier d'historien, il utilise ses propres technologies d'écriture. C'est-à-dire qu'il a ses méthodes de traitement de l'archive, sa façon de rédiger un texte d'historien qui soit validé comme un texte scientifique. Testimony n'a pas la volonté de se substituer à un texte d'historien dans le sens où il aurait, disons, plus de valeur qu'un texte d'historien. En revanche, il propose un autre dispositif d'écriture. Et si, pour les gens qui étudient l'historiographie, ces gens savent très bien que au cours de l'histoire, il y a eu différentes façons d'écrire l'histoire. Et ce que propose Testimony, ou les dessins de Lombardi d'ailleurs, c'est une autre façon d'écrire l'histoire. Donc ça, c'est pas que ça rentre en concurrence avec les méthodes actuelles de l'historien, mais c'est une proposition supplémentaire de comment on écrit l'histoire. Ce que lira l'historien dans Testimony, c'est peut-être pas tant la découverte de nouveaux faits qu'une nouvelle façon d'écrire, une nouvelle façon de rédiger l'histoire. C'est un mini-opéra pour non-musiciens. Et l'ouverture en fait, de ce mini-opéra, c'est le Powell Opéra. Il s'appelle le Powell Opéra parce que le texte, en fait, les lyrics, sont tirés d'un discours de Colin Powell. Et cette pièce d'ouverture du mini-opéra est fondée en fait, sur une technique de redescription de ce discours. La technique de composition musicale, elle vient d'une tradition de la musique expérimentale des années 60-70, et pour cette pièce-là, plus spécifiquement d'un Irlandais qui s'appelle Cornelius Cardew. Pour lui, les questions musicales n'étaient pas des questions purement esthétiques, mais étaient toujours articulées à des questionnements éthiques et des questionnements politiques. Vous savez, il y a cette phrase de Cage que je trouve très jolie, qui dit que quand on compose une pièce musicale, il faut toujours que cette pièce, en fait, il faut toujours essayer de l'envisager comme une représentation de la société idéale, d'une société idéale dans laquelle on aimerait vivre. Et Cardew fonctionnait un peu comme ça, c'est-à-dire que c'est un type qui a une formation très académique,
et qui, avec ses collègues ou ses camarades, composait des pièces au début d'une technicité telle qu'il y avait à peu près 4 pianistes dans le monde qui étaient capables de les jouer. Et il avait des partitions super compliquées. Et puis à un moment, il s'est dit, comme il avait quand même un fond marxiste assez fort, c'est une erreur de considérer la musique comme une discipline, au même titre que la sculpture, etc. Il faut l'envisager comme une activité anthropologique, c'est-à-dire plutôt aller chercher son pain, faire un jogging, promener le chien, des choses comme ça. Et pour ça, il a considéré que une des pierres de touche du problème, c'était la question du document, et plus spécifiquement le problème des systèmes de notation, puisque les gens qui ne savaient pas lire le solfège considéraient en fait le solfège comme une barrière qui leur interdisait l'accès au monde de la musique. Alors il s'est dit, si on invente des systèmes de notation, eh bien peut-être que ça peut résoudre le problème des systèmes de notation que n'importe qui pourrait lire immédiatement. Et c'est pour ça que, en fait, à partir des années 50, vous avez cette invention complètement débridée des systèmes de notation. Alors, vous savez, vous avez Stockhausen, Xenakis qui font des graphes, qui font des nuages de points. Vous en avez d'autres qui font des figures géométriques, des ronds, des carrés, à interpréter par les musiciens. Vous savez, c'est ce qu'on a appelé l'œuvre ouverte, un système d'œuvre ouverte, puisque en fait, l'effectuation de la pièce passe par une série de choix des interprètes. Et les interprètes ne font pas que exécuter des instructions très strictes et très déterminées qu'il y a sur le papier. Donc, vous avez des partitions super complexes, et puis vous en avez aussi des beaucoup plus simples qui consistent en des instructions textuelles. Alors, comment est-ce qu'on choisit tel ou tel système de notation? Pourquoi on va inventer tel système de notation? Eh bien, pour Cardew, le système qu'on va choisir va fabriquer une certaine forme de représentation. C'est-à-dire que, par exemple, pour cette pièce du Powell Opera, le système est très simple. Vous choisissez une note. C'est un chœur, disons, pour entre 30 et 50 personnes, absolument non musiciens. Chacune de ces 30 ou 50 personnes choisit une note au hasard et la répète un certain nombre de fois. Et puis, pour passer à la séquence suivante, eh bien, les participants vont devoir se déplacer dans un espace pour aller chercher la note de quelqu'un d'autre et la reprendre pour soi. Les gens ne se déplacent que pour deux raisons dans l'espace. Soit pour aller chercher une note, soit, lorsqu'ils ont une note, pour aller la porter ailleurs dans l'espace. Par exemple, ils vont voir que à tel endroit, ça serait intéressant qu'il y ait une source sonore avec cette note. Ou ils vont se dire, tiens, à côté de telle note, ça serait intéressant que je porte la mienne. Et c'est comme ça que se fabrique l'espace. C'est-à-dire que l'espace de représentation est produit lors du déplacement des participants. Vous voyez, c'est pas un espace qui existe antérieurement. C'est aussi une représentation qu'on pourrait considérer comme politique, puisque ça serait la question de comment se forme un collectif, comment est-ce qu'un collectif tient, comment est-ce qu'il fonctionne. Et là, on voit bien qu'il y a ce système de relais des notes qui permet de lier le groupe, de lier un collectif, qui vraiment n'a, où les gens n'ont aucun rapport les uns avec les autres. Donc vous voyez comment, en fait, une méthode de composition musicale, ça peut produire aussi une représentation de type éthique ou de type politique. Et c'est pour ça que c'est très important de considérer que ces partitions-là, enfin, en tout cas, Cardew avait ces idées-là, que une partition ou un système d'écriture, ça peut être une machine, en tout cas quand on travaille avec des non-musiciens, ça peut être en fait une machine ou un dispositif à intégrer des gens, à intégrer des non-musiciens, et par ce mouvement d'intégration, de fabriquer du collectif. C'est en ça que le système de notation, c'est une technologie, vous voyez. C'est pas simplement pour illustrer ce qu'il y a dans la tête du compositeur, qui pense à une mélodie, il va essayer de la mettre au propre sur un papier. C'est vraiment une technologie qui va fabriquer une forme très particulière. Et qui va fabriquer non seulement une forme musicale qu'on est dans la musique, ou une forme plastique, ou une forme, conceptuelle qu'on est dans la littérature, mais qui va fabriquer aussi une forme politique, qui va fabriquer une forme éthique, etc., etc.
C'était une émission à partir de deux rencontres avec Franck Lebovici, qui a publié aux éditions Aldent Documents poétiques et Portraits chinois. À lire aussi aux éditions Aldent Testimonies de Charles Resnikoff, Ce que je fiche de Stéphane Bérard et Poésie action directe de Christophe Hanna. C'était une émission d'À bout de souffle sur le net www.arteradio.com/a-bout-2-souffle.
In this style run there may be more ladies and gentlemen.